les régionales de 1998. Avec François Bazin, bonjour.
Bonjour Jean.
Vous êtes un vieux routier du journalisme politique. Vous venez de publier un livre, Les ombres du président, dites merci.
Merci.
Chez Plon, réflexion sur un demi-quinquennat. Maintenant, les segments sont de plus en plus courts. Hein. Rien ne va plus. Du septennat, on est passé au quinquennat. Du quinquennat au demi-quinquennat.
Hein. Tout fout le camp.
Mais vous êtes historien de formation, François Bazin. Alors, on va avec vous remonter au millénaire précédent, je le disais, à 1998, précisément, une élection régionale disputée dans plusieurs assemblées qui en sont issues. Le Front National a pu tenir la dragée haute aux majorités seulement relatives à quoi étaient réduites la gauche et la droite. L'histoire n'est pas prédiction, mais cet épisode permet peut-être d'éclairer les quelques élections de président de département qui restent incertaines ce jeudi, et surtout les régionales à venir, élections au scrutin proportionnel programmées en décembre de cette année. Tout fout le camp et tout s'accélère. C'était un scrutin, souvenez-vous, d'apparence tranquille, 1998.
A priori, oui, il faut remettre dans le contexte. 98, c'est un an après l'alternance et l'arrivée de Lionel Jospin à Matignon. On est dans un contexte de cohabitation où la gauche a encore le vent en poupe. Sur un scrutin régional qui n'est pas celui que nous connaissons actuellement, il n'est qu'à un tour. Et avec une gauche qui avait été lourdement défaite en 1992 et qui là retrouve des plumes.
Jacques Chirac est à l'Élysée, observant Lionel Jospin gouverner depuis l'hôtel Matignon. Mais le Front National est encore uni à l'époque. Son numéro 2, M. Maigret, dit qu'il faut cultiver l'implantation locale et il arrive quand même à 15% et ça a des effets sur les assemblées.
Oui, ça a un effet parce que là, on n'est pas dans un système de tripolarisation comme on en est aujourd'hui, mais le Front National est une force d'appoint qui peut jouer, surtout quand il n'y a pas de majorité claire qui se dégage des urnes. D'où la possibilité pour lui soit de s'allier avec la droite, soit pour la droite de s'allier avec lui, soit de passer des accords plus ou moins secrets, plus ou moins souterrains. Enfin, la question du front est posée, elle est posée pour la classe politique depuis une dizaine d'années, mais cette fois-ci, elle se pose à ciel ouvert et elle a un effet clair, c'est qu'il y a des majorités droite Front National qui se dégagent dans les urnes au moment de l'élection des présidents de conseils régionaux.
Et ce, dans sept région. Alors, vous dites que les choses se font de manière visible. Non, parce que avant certaines de ces élections de président de droite qui n'ont été possibles que parce que les conseillers régionaux Front National l'ont bien voulu, il a dû se dérouler quand même des conversations, s'élaborer peut-être des conventions, des pactes, disent ceux qui sont choqués.
Oui, sans doute, mais des pactes secrets et non visibles. La position de la droite à cette époque-là, c'est pas d'alliance. La droite avec Jacques Chirac a un peu hésité au début des années 80, mais elle a bien compris que le danger était tel du Front National, que pour elle y compris, qu'il fallait faire barrage. Donc officiellement, il n'y a pas d'alliance. Et ça vaut pour tous ces candidats. Les alliances qui se nouent en secret, elles se font, par définition, elles sont invisibles. On ne les voit pas venir. Et les personnes qui ont cette intention ne le clament pas sur les toits avant le jour du scrutin.
Tout ça se fait. On peut prendre un exemple, si vous voulez bien. Oui. François Bazin, c'est la Bourgogne, où règne, selon le président Jean-Pierre Soisson, qui va être élu dans les conditions que vous évoquez, la convivialité.
Oui, la convivialité bourguignonne.
Alors, ça se passe comment ?
Alors, Jean-Pierre Soisson n'était pas à son coup d'essai, puisque la fois précédente, il avait été élu aussi avec des voix du Front National. Mais comme tout ça se passe à bulletin secret, personne n'avait pu en faire officiellement la preuve.
La fois précédente, il était ministre d'ouverture de François Mitterrand. Et François Mitterrand
lui avait dit, quand on a la Bourgogne, on la garde.
Voilà. Et alors,
en gros, c'est pas vu, pas pris.
Cette fois-ci, il déjeune avec M. Jaboulet-Verchères, qui est le leader du Front National.
Oui, mais là, il faut comprendre la Bourgogne politique. Le poids, y compris pour le Front National, d'une certaine maçonnerie. Tout ça se passe dans un restaurant, souvent, qui est en face de la mairie de Dijon, premier étage, où on se réunit, où on cause. Chapoulet-Verchères est un négociant en vin puissant de la côte bourguignonne. Le Soissons et le duc de Bourgogne qui se conçoit comme tel. Il y a une partie de la gauche qui continue à le regarder en faisant les yeux doux, etc. Donc, oui, il y a alliance, mais autour d'un verre.
Oui, et sans condition, dit Jean-Pierre Soissons. Tandis que dans d'autres régions, la Picardie de Charles Bord, Rhône-Alpes de Charles Mignon, Languedoc-Roussillon de Jacques Blanc, là, il y a quand même des conditions qui sont posées par le Front National. Aujourd'hui, Mme Le Pen propose une charte pour les élus départementaux, si jamais il y a possibilité pour elle d'introduire un coin, mais sur des tout petits sujets apparemment, haro sur le voile à la crèche, haro sur les retraites complémentaires des élus, bienvenue aux personnes âgées. Et à l'époque, les conditions du pacte, c'était quoi?
Ce sont des conditions locales, ce sont des accords de gestion, ce sont des postes. C'est la vraie différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui Marine Le Pen ne veut pas cet accord, donc elle met des conditions, enfin, et qui ne peuvent pas être affichées, qui ne peuvent pas être acceptées. À l'époque, la négociation se passe localement, discrètement, sur des accords qui ne sont pas de gestion, mais de je te passe le Séné, tu me renvoies le...
Toujours la table. Jacques Chirac intervient, il est président de la République en cohabitation, je le rappelle à nos auditeurs, le 23 mars, très clairement, à la télévision, en disant aux 7 présidents de région élus dans ces conditions, attention.
À la droite républicaine, je voudrais dire qu'elle peut convaincre sans se renier. Elle a pris des engagements, maintes fois répétés, au terme desquels elle n'accepterait aucune compromission avec l'extrême droite. Ces engagements doivent être respectés, dans la lettre, mais aussi dans l'esprit. Si je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont fait preuve de courage et de clairvoyance, je ne peux que désapprouver celles ou ceux qui ont préféré les jeux politiques à la voix de leur conscience. Cette attitude, même si elle répond à la volonté de faire barrage à l'adversaire, n'est pas digne, et elle peut être dangereuse. La fin ne saurait en aucun cas justifier les moyens.
L'adversaire socialiste, mais l'ennemi, Front National. Alors ceux qui font preuve de clairvoyance, ce sont ceux qui, élus dans ces conditions, vont se retirer sur l'injonction des états-majors ou en raison de leur conviction personnelle. Il y en a 3.
Oui, il y en a 3. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce soit le chef de l'État qui intervienne sur des élections locales, ce qui prouve que la question est totalement identitaire. Avec une difficulté, c'est que c'est quand même très difficile de demander à un président élu de démissionner et de recommencer. Ça se passera en Franche-Comté, mais il y a des élus qui considéraient qu'une fois qu'ils avaient la présidence, le président de la République pouvait tout raconter n'importe quoi, choisir la ligne qu'il voulait. Eux, ils étaient maîtres chez eux. Et c'est toujours la difficulté dans ce genre d'opération. On peut dire, mais faire localement et défaire des majorités qui se sont installées dans les urnes, c'est extrêmement compliqué.
Et il n'y a pas que le président de la République, il y a presque tous les états-majors de la droite, sauf M. Madelin. Il y a M. Sarkozy, il y a Philippe Séguin, il y a M. Bayrou, il y a M. Lautard, il y a Raymond Barre, qui charge la barque.
Tout à fait, mais quand vous dites Madelin, aujourd'hui, Madelin est sorti du jeu politique. On oublie ce que c'était quand même que le poids de Madelin à cette époque-là. C'est quand même un des piliers de l'ancien parti républicain, composante de l'UDF. Ce que tout cela va produire, c'est une scission quand même. C'est une clarification au sein de la droite, puisque une partie des amis de Madelin vont fonder un parti qui s'appelle Démocratie libérale, qui prendra ouvertement, à ce moment-là, l'alliance avec le Front National. L'intervention de Chirac clarifie sa propre position, elle ne change pas beaucoup de choses localement, et elle provoque la scission.
La scission, elle est aussi l'œuvre de Charles Mignon, qui théorise à la présidence de Rhône-Alpes, en voulant donner à son initiative une dimension nationale, l'élection qu'il a faite. Et il crée un parti qui s'appelle la droite.
Oui, faut, là aussi, on voit bien d'ailleurs la dimension toujours très locale, avec le poids des personnalités dans ce genre d'opération. Charles Millon, il faut voir qui c'est à l'époque. Il a été quelques années avant un des jeunes rénovateurs de la droite, fonctionnant avec Michel Noir, Carignan et d'autres, Fillon, Séguin, ayant la morale en bandoulière, l'idée d'une rénovation de la vie politique. Et souvent, dans ce genre d'opération, en l'occurrence, je dis souvent, non, plutôt en l'occurrence, s'agissant de Charles Millon, il va théoriser après coup ce qui, au départ, est un mouvement purement opportuniste. Et le durcissement de la ligne de Millon au fil des ans est assez intéressante parce qu'elle montre que dans l'action, quand on met le doigt dans ce genre de mécanique, finalement, ça conduit très très loin. C'est ce qui s'est passé avec Charles Millon. Au fil des ans, il s'est droitisé à l'extrême. Et cette droitisation, au fond, quand il a mis en cohérence ses idées et ses actes, c'est à ce moment-là où il a été battu. Jusque-là, quand il avait des accords purement locaux, de coins de table, etc., ça tenait. Le problème, c'est qu'il a théorisé. Il a théorisé, il a été battu au final.
Alors, ceux qui n'ont pas théorisé, Jean-Pierre Soisson, Jacques Blanc, qu'on surnommait l'inspecteur Colombo, parce qu'il était impossible de s'en débarrasser quand il entrait quelque part, ils ont tenu, finalement, assez longtemps, malgré le tumulte et les difficultés. Le maire socialiste de Montpellier de l'époque avait même appelé rue de Vichy, la rue qui logeait le conseil régional de Languedoc-Roussillon. Il y a quelque chose qu'on a oublié, François Bazin, et on pourrait terminer là-dessus. C'est le Front National qui a sabordé lui-même son ascension à ce moment-là.
Oui, ce qui arrive derrière, c'est la scission aussi, chez eux, entre Maigret et Le Pen. Là aussi, sur un conflit de ligne, on a parlé de la scission qui avait lieu, qui n'était pas énorme, mais enfin qui a existé au sein de la droite. Il y a eu scission, alors qui a cassé en deux le Front National, précisément sur cette question des alliances.
Et de l'implantation locale, et du rôle de l'implantation locale. Sociale.
Il y avait un conflit de ligne extrêmement puissant entre Maigret et Le Pen. Le Pen était resté sur une ligne d'affrontement de la droite, d'absence d'alliance pour casser la droite, briser le système politique. Maigret pensait quand même qu'à un moment il allait falloir passer des alliances avec la droite, la casser par l'alliance. Il y avait aussi un conflit d'ambition entre deux hommes qui n'avaient pas tout à fait le même âge, pas tout à fait la même culture. Mais ces petits arrangements locaux dont on vient de parler, ont provoqué dans le système politique des chocs qui ont fait bouger les lignes à droite et à l'extrême droite. Je ne sais pas aujourd'hui ce que ça va provoquer, mais on risque d'avoir quelque chose, sinon de comparable, du moins de semblable.
Dans l'ombre d'un président, vous interrogez l'avenir immédiat. C'est votre dernier livre, François Bazin, chez Plon. Fort bien écrit, fort intéressant, peut-être les questions d'histoire. Qui est responsable? Que s'est-il passé il y a 17 ans? Sont d'une infinie futilité, mais nous avons choisi quand même de les poser aujourd'hui. Stéphane Ronxin à la réalisation et Maxime Ingrand à la technique.